Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani, il est 8h, bonjour et bienvenue, voici le sommaire de cette édition matinale. Les lignes n'ont pas bougé entre le gouvernement et les enseignants signataires du 15 octobre 2016. Ces derniers prévoient de boycotter la rentrée scolaire prévue pour le 1er novembre prochain. Les propos des autorités de la transition semblent rassurer le Conseil de sécurité de l'ONU, mais tel n'est pas le cas pour certains responsables de partis politiques qui réclament le respect du délai de la transition. Au nord et au centre du pays, des populations dénoncent l'absence d'avocats. Selon elles, cette situation rend difficile la répartition dans la justice. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Assetou Kanté, mise en onde Mamadou Ouattara. Un doute plane sur la rentrée scolaire 2021-2022. Après la rencontre des enseignants avec le gouvernement le vendredi dernier, les lignes n'ont pas bougé. Les enseignants insistent toujours sur l'application de l'article 39. Le gouvernement, de son côté, propose une transformation de l'article en primes et indemnités. Au même moment, les enseignants volontaires réclament leur intégration dans la fonction publique. Les détails avec Issa Omar Togola.
Le lundi prochain, 1er novembre, les élèves vont-ils reprendre les chemins des classes ? Apparemment, la question n'est toujours pas tranchée. À la place de l'article 39, le gouvernement propose aux enseignants des primes et indemnités. Les enseignants disent non à cette proposition. Ils réclament plutôt l'application stricte de l'article 39 ou une élaboration d'une grille des statuts du personnel enseignant accompagnée des modalités de paiement. Ousmane Almoudou, porte-parole des enseignants.
Parce que chacun reste sur sa position, il y aura forcément des mouvements. Au courant de la semaine prochaine, nous allons donner notre position claire par rapport à la rentrée, si on va rentrer ou pas. Maintenant, si nous rentrons, au cours de l'année scolaire, on va engager des actions syndicales pour que le gouvernement applique la loi de la République. Ça, c'est très évident.
Pendant ces temps, les enseignants volontaires plaident pour intégrer la fonction publique. À défaut, ils veulent à nouveau un contrat en prélude de l'année scolaire 2021-2022, nous dit Zier Sandogo, président du collectif des enseignants volontaires.
Nous demandons à l'État de nous intégrer dans la fonction publique de l'État ou des collectivités territoriales, afin de nous soumettre un nouveau contrat. Nous sommes des sortants des écoles de formation. Nous étions tous dans le secteur privé, en train de se débrouiller là-bas. Aujourd'hui, nous sommes dans le RIC.
Nos tentatives pour faire réagir le gouvernement sont restées vaines. Avec cette situation, la rentrée scolaire 2021-2022 aura-t-elle lieu ?
En attendant la réponse à cette question, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le gouvernement de la transition a déclaré le représentant spécial de la CEDEAO au Mali persona non grata au vu de ses agissements incompatibles avec son statut. Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public hier lundi. Un délai de 72 heures est accordé à M. Hamidou Bouli pour quitter le territoire national, précise le document. Cependant, le gouvernement réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue avec la CEDEAO et à œuvrer ensemble pour la réussite de la transition. 8,25 milliards de francs CFA, soit 15 millions de dollars américains, c'est le montant investi par l'USAID dans le cadre de l'amélioration de la santé et la résilience des populations du nord du Mali. À cet investissement s'ajoute la somme de 5 millions de dollars pour soutenir l'éducation des garçons et des filles. Ce programme de 5 ans vise à renforcer, selon l'USAID, l'éducation et la santé des régions du nord. Les détails avec Juliette Koulibaly.
Ce programme concerne les régions de Gao, Kidal et Tombouctou. Selon l'USAID, le premier projet permettra d'améliorer la formation et la supervision des agents de santé dans le Nord. Il permettra également de rendre plus accessibles des médicaments et des produits médicaux. Par ailleurs, le second projet d'une valeur de 5 millions de dollars américains sera injecté dans l'éducation des filles et garçons dans le Nord du pays. Dans un communiqué rendu public jeudi, l'ambassade des États-Unis au Mali affirme qu'à la date du mois d'août 2021, plus de 1660 écoles étaient fermées dans le pays à cause de l'insécurité, une situation qui prive 500 000 enfants et jeunes d'avoir accès à l'éducation. L'USAID rappelle que ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre du programme triennal de l'éducation au Mali lancé en janvier 2021.
La tenue des élections reste une priorité pour l'Organisation des Nations Unies. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé les autorités maliennes à organiser les échéances électorales en février 2022. Toutefois, le colonel Assimi Goïta rassure, selon lui, les Maliens iront aux élections aussitôt que les conditions seront réunies. Alice Sissé nous en dit plus.
Pour le Conseil de sécurité, la meilleure transition, c'est la transition la plus courte. La délégation a, par ailleurs, souligné que tout impératif de réforme devrait aller avec la détermination d'un calendrier qui soit prévisible, conformément aux décisions qui ont été prises par la CEDEAO. Le gouvernement de transition maintient de son côté l'organisation des assises nationales comme préalable à tout chronogramme électoral. Des responsables des partis politiques déplorent de leur côté la position du gouvernement de la transition. Si le parti RMA demande le respect des engagements pris devant le Conseil national de transition, le RPDM souhaite seulement que la sécurité soit garantie sur l'ensemble du territoire national avant toute chose. Sur le volet sécuritaire, la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad, estime qu'il ne peut pas y avoir de réponse malienne fiable au terrorisme tant qu'il n'y aura pas de forces nationales inclusives suffisamment formées et dotées de ressources.
Je vous l'annonçais dans les titres, le manque d'avocats dans les zones de conflit devient un problème inquiétant pour les populations du centre et du nord. Une faille dans la répartition de la justice estime celle-ci. Ces dernières interpellent l'État à rendre la justice équitable à tous les citoyens du pays. Le point avec Sita Sidibé.
L'accès à la justice aux personnes vivant en zone de conflit reste préoccupant. Les populations du nord et du centre du Mali dénoncent l'absence d'assistance judiciaire. Une faille dans le système judiciaire, estime Alassane Djité, jeune leader et membre de la société civile à Gao.
Pour nous, c'est à cause de la question d'insécurité qui fait aujourd'hui qu'il y a l'absence de ces avocats au niveau des régions du nord. Pour nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a pas de dispositif qui était là pour le moment. Nous avons vraiment un cri de cœur à l'endroit de nos autorités de prendre vraiment toutes les dispositions afin que les régions du nord puissent être dans le même droit que les autres régions du Mali.
Pour chaque Omar Konaré, avocat, le métier d'avocat rime aussi avec litige et activité économique. L'absence de ces éléments justifie le manque d'avocats dans ces zones de conflit.
Un avocat vit des litiges. Dans une zone où il n'y a pas d'opération économique, l'avocat n'a pas à aller s'installer là-bas. Il risque de crever de faim. Et quand vous ajoutez à cela l'insécurité, c'est ça en fait qui explique l'absence d'avocats dans la plupart des localités nord, même dans la plupart des localités du
Pour les observateurs, l'État devrait quand même s'engager à restaurer la justice sur l'étendue du territoire du Mali.
La fête de Mauloud à Tombouctou, c'est aussi le Malassara, c'est-à-dire l'après-midi du baptême. L'événement a eu lieu au pied de la célèbre mosquée de Sankore. Cette cérémonie est non seulement un moment de retrouvailles, mais aussi une occasion de faire de prières et de bénédictions. Suivant quelques réactions au micro de Maraman Babakunta.
C'est ma première fête de Mauloud à Tombouctou. Je trouve que c'est une belle fête. Le respect des coutumes, des traditions. Moi, honnêtement, je suis impressionné. Et que tout le monde puisse venir à Tombouctou pour vivre ça une fois.
Très, très contente de la fête. Et je souhaite de meilleures vœux à tout le monde, vraiment.
Je demande le bon Dieu d'amener la paix, la sérénité, la quiétude au Mali ici et partout dans le monde, Inch'Allah.
On est très contente de passer la fête avec le soeur, le frère, et que c'était une chance de rencontrer beaucoup de nos aînés qui sont arrivés cette année. Et on fait beaucoup de prières pour que la paix revienne au Mali.
Notre impression est que les enfants de ce pays, des étrangers, se retrouvent en ce Mauloud pour magnifier le prophète, pour demander à Dieu de nous accompagner dans la vie de tous les jours, pour que le Mali puisse vivre en paix une bonne fois pour toutes.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
8 heures passées de 11 minutes, faisons à présent un tour dans les régions. Le CSCOM de Gundara, dans la commune de Kontela, dans le cercle de Bafoulabé, est victime d'une pénurie de médicaments depuis plusieurs semaines. Cette localité, située à 35 km de Oussoubidjanian, demande également des équipements et du personnel sanitaire. La population est obligée d'amener leurs malades à Oussoubidjanian et même les femmes enceintes, explique une source locale. Le quartier de Dala, dans la ville de Sang, a bénéficié le week-end dernier d'un complexe sportif composé d'un terrain de football et de basketball. Ce geste d'un coût de plus de 11 millions de francs CFA a été fait par un ressortissant de la ville. Le donateur Amadou Berté Dibenke a invité les populations du quartier à l'union. Les habitants ont remercié le donateur tout en lui demandant de rester toujours vigilant aux besoins de la population de la ville et du quartier en particulier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Je vous laisse en compagnie de Idrissa Sako pour la présentation de cette édition en Bambara, mais avant tout de suite le magazine. L'excision est toujours exercée dans le cercle de Kolokani. Cette pratique traditionnelle ancrée dans la société se poursuit dans presque toutes les localités du cercle en dépit des efforts fournis par certaines ONG. Des exciseuses reconnaissent les effets néfastes de l'excision, mais elles continuent à exciser des filles. Certains traditionnalistes affirment qu'il faut plus de temps pour obtenir une adhésion massive à l'abandon de cette pratique. Plus de détails dans ce reportage de Moussa Malé Sissoko de retour de Kolokani.
Ces excuseuses traditionnelles affirment pratiquer cette activité depuis quelques années. Selon elles, l'excision est un rituel traditionnel qui consiste à préparer la jeune fille à son futur statut d'épouse.
Depuis des années, nos parents font cette pratique. Nous ne nous déplaçons pas pour aller chez une autre personne. C'est les parents qui viennent vers nous avec les enfants pour l'excision. Depuis que j'ai commencé ce travail, je n'ai pas eu de problème. Je connais ce travail. Nous avons un groupe installé spécialement pour la cause. Je conseille sur les méfaits de l'excision sur la femme.
Le procédé a perdu aujourd'hui de son sens culturel et traditionnel. L'opération est réalisée à nos jours avant l'âge de 5 ans, déplore Moussa Traoré, conseiller du chef du village de Kolokani.
La façon dont on faisait autrefois, ça a tellement changé. En ce moment, l'organisme était vraiment parfait, il n'y avait pas assez de risques. Mais maintenant, des enfants à l'âge de 6 mois, 1 an, ce sont des choses qu'on exécute. Donc ce changement brusque, ça amène beaucoup de mal, donc on n'arrive pas à cerner ces aspects.
Pour le médecin chef du centre de santé de référence de Kolokani, la pratique de l'excision traditionnelle affecte beaucoup la vie de la femme. Dr Étienne Koulibaly rappelle que l'excision peut entraîner différentes complications médicales.
C'est un phénomène tabou, même s'il y a eu des décisions donc, qui interdisent la pratique au niveau des centres de santé. Mais il faut reconnaître que cette pratique demeure au niveau de quelques endroits.
Certaines ONG dans le cercle œuvrent pour l'abandon de la pratique de l'excision et du mariage des enfants. Lamine Sissoko, agent à l'ONG Tanié, indique que la sensibilisation a pu amener certains villages à abandonner la pratique.
On a mis en place un comité qu'on appelle comité de veille et d'alerte. Donc dans chacun de ces villages, ce comité est constitué de chefs de village, les communicateurs traditionnels, l'imam, et puis les points focaux de l'ONG Tanié. Donc c'est ce comité-là qui veille sur l'engagement qu'ils ont eu à prendre lors de la déclaration publique. Mais parmi ces villages aussi, il y a des villages qui ont mis en place leur propre plan d'action. Par exemple, le fait de prendre la décision chez eux-mêmes, cas où on apprend qu'un tel a fait exciser son enfant, il sera appelé à payer effectivement une amende.
À Kolokani, comme dans beaucoup d'autres localités du Mali, la pratique de l'excision persiste dans les communautés et les sujets demeurent un tabou.